Aleph, Chet, Tav. Aleph, c'est la première lettre d'Eretz Israël. Chet, c'est la première lettre de l'expression Chaye Olam Haba, la vie du monde futur. Et Tav, c'est la première lettre de la Torah. Je ne pense pas que le vieux professeur de Bible, qui est mis en scène dans la nouvelle de la Nouvelle Yoshua au début de l'été 70, aurait proposé la même interprétation et la même exégèse que du verset 4 du psaume 27 que nous venons de lire sous la plume de Hazar. Nous allons donc donner la parole à l'auteur de Trilat Kaïtchivim et nous allons lui demander de réinterpréter pour nous cette nouvelle remarquable qui a marqué une date dans l'histoire de la littérature israélienne contemporaine.
Bien, je vais tâcher de m'acquitter du mieux possible d'une tâche un peu ingrate, c'est celle de vous familiariser avant que Aleph Beit Yehoshua prenne la parole avec cette nouvelle et qui certainement ne sera pas l'unique sujet de son intervention, mais qui représente, comme le disait à l'instant M. Professeur Sirac, un point tout à fait marquant dans la littérature israélienne contemporaine et qui se rattache, du moins à la première lecture, d'une manière extrêmement nette au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Si on pouvait essayer de la résumer, il s'agit de l'histoire d'un père âgé, il a 70 ans, professeur de Bible dans un lycée, qui apprend pendant sa classe la mort de son fils dans un incident frontière en été 70. Vous savez qu'à cette époque, il y avait de nombreux incidents frontières dans la vallée du Jourdain, et qui entreprend un douloureux chemin pour monter à Jérusalem, reconnaître le corps de son fils et qui vit des événements dramatiques puisque après être arrivé à l'hôpital, aucun des cadavres qu'on lui présente n'est celui de son fils. Son fils, semble-t-il, n'est donc pas mort et sans détente, ce père finit par se faire conduire auprès de l'unité de son fils, là où elle se trouve dans la vallée du Jourdain, et où il rencontre son fils. C'est à la suite d'une erreur d'identification que la plaque d'identité que chaque soldat porte sur lui de son fils s'est trouvée déplacée sur une autre personne qui a été tuée dans cet incident. Donc le père se trouve en quelque sorte rassuré. Et si vous voulez, c'est toute l'histoire, mais c'est loin d'être l'histoire, ce n'est que le récit. Mais cette nouvelle, qui emprunte dans sa technique littéraire beaucoup à ce qu'on appelle le nouveau roman, cette nouvelle est faite tout entière d'incertitude. Je dirais incertitude non seulement parce que le thème même de la recherche d'un fils débouche sur l'incertitude de son sort, mais toute la nouvelle est construite de manière à laisser finalement le lecteur sur un immense point d'interrogation, encore que certains éléments réflexes nous guident et puissent nous laisser croire qu'il y a une référence absolue, très précise, à cet événement narré dans la Genèse, qui est le sacrifice ou la ligature d'Isaac. Ce père lui-même est donc un homme très âgé, il a 70 ans, il s'est entêté à ne pas se laisser mettre à la retraite et il s'est imposé de force dans son lycée, il a continué à enseigner en prenant la place de force du jeune enseignant qui devait lui succéder. Il enseigne la Bible et il est extrêmement sévère, c'est une terreur pour ses élèves. Et la scène sur laquelle on revient plusieurs reprises est celle de l'examen. Pourquoi plusieurs reprises? Parce que sur le plan du salaire de la facture, nous assistons à une triple ouverture. L'ouverture de la nouvelle est reprise deux fois, chaque fois avec une variante subtile, de la même manière que le récit n'est pas linéaire, qu'il y a des résurgences du passé et qu'il y a même certaines anticipations peut-être imaginées ou rêvées sur un discours de fin d'année fait pour une fois non par le directeur mais par ce professeur devant les parents d'élèves, discours dans lequel il fait allusion à son expérience personnelle qui est celle du deuil de son fils, deuil dont nous allons apprendre plus tard, qui n'est pas un deuil, ou qui n'est peut-être pas, puisque ce triple départ finit par déboucher sur la fin de la nouvelle, par une nouvelle annonce, une annonce répétée de la mort du fils. Nous comprenons donc immédiatement qu'il ne s'agit pas du cas personnel de ce professeur, mais d'un drame vécu par une génération, qui est la génération des aînés, face à la jeune génération israélien, cette génération que, comme il est dit dans la nouvelle, est tellement disciplinée, comme l'était Isaac, sans poser de questions. Isaac s'est laissé mener et ligoter par son père, et voilà que ces jeunes Israéliens, sans poser de questions, tellement disciplinés, montent à l'assaut et se battent sans poser de questions. Donc ce vieux père, terrible en quelque sorte, ne vit pas dans la certitude, ce déchirement du départ du fils, un fils avec lequel il a une communication très malaisée, un fils qui est parti faire des études aux États-Unis, qui lui revient changé, un peu étranger, marié avec une jeune femme qu'il a beaucoup de mal à appréhender, un petit peu hippie, un petit peu nouvelle gauche, très très étrangère à son monde. Et ce père, finalement, projette sur ses élèves l'image de son fils et voit dans ses élèves, qu'il rencontre d'ailleurs en uniforme, qu'il rencontre en se promenant dans les rues de son quartier, projette sur eux l'image de son fils et voit en eux ses fils sacrifiés. Peut-être irons-nous jusqu'à dire, et là nous rejoindrons le thème que Manitou compte aborder le mercredi prochain, ses fils peut-être crucifiés, puisque c'est une interprétation, je l'ai appris par Beth Yehoshua aujourd'hui même, c'est une des interprétations qui appelle de Messe à Noël, mais là j'anticipe. Et s'il fallait donner, j'hésite à le faire, puisqu'on peut interpréter cette nouvelle de manière si différente, mais pour la rattacher plus nettement au thème, je me réfère tout de même au discours que prononce ce professeur devant l'Assemblée des parents d'élèves, un discours qu'il prépare, qu'il fait peut-être déjà, qu'il fera, et dans lequel il dit, en parlant de son fils, « Nous pensions qu'on enverrait monter la garde à Jérusalem, et en fait on l'a envoyé dans la vallée du Jourdain. » 31 ans, c'est un âge dont nous voyons bien ici le saint fils unique, bien-aimé. Il ritra, ma chère Arta, nous retrouvons ici les thèmes du texte. Il faut dire aussi que cette recherche, cette quête du fils, se passe dans une sorte d'écroulement des valeurs qui sont les valeurs auxquelles ce professeur de Bible se réfère constamment dans son enseignement. C'est un Shabbat qu'il monte vers Jérusalem, et c'est un Shabbat qui se désagrège puisqu'il lui faut bien partir de Jérusalem en jeep pour descendre dans la vallée du Jourdain dans le soir tombant, et finalement il y a ici une sorte de, encore ce ne soit pas dit dans le texte, d'écroulement, d'effritement, pas d'écroulement du Shabbat, d'effritement du Shabbat par ce voyage. Il y a un paysage dévoilé qui est un paysage sans divinité. Je lis très rapidement ces quelques lignes. « C'est enfin mon entrée solennelle et armée dans la vallée du Jourdain, moi qui n'y avais jamais mis les pieds, trouver aussitôt les signes d'une divinité morte. Dans les collines desséchées qui bordent la route, dans le visage ridé par le soleil d'un vieux soldat qui lève la barrière. » Mais ce n'est pas simplement l'absence de signes qui pourrait redonner un sens à cette histoire revécue, parce que l'histoire elle-même se trouve privée de sens. Et dans son discours final, le professeur le dit bien, l'histoire est privée de sens. Toutes ces morts, tous ces sacrifices, quelle valeur peut-on leur accorder? L'histoire n'a pas de valeur que cet énorme sacrifice toujours recommencé. Et lorsque finalement, vous avez envoyé ces quelques lignes. Professeur s'adressant aux parents d'élèves, à première vue, dit-il, votre disparition est gratuite aux élèves, sans signification superflue. Car du point de vue d'histoire, pour autant que vous vous obstiniez, votre mort ne sera jamais qu'une répétition lassante dans un décor un peu différent. Une variété nouvelle de collines, d'autres lignes de désert, une autre sorte de buisson, un nouveau genre d'arbre, mais le sang est le même et la douleur nous est si familière. Mais si l'on y regarde de plus près, tout se renverse. Votre disparition se remplit de sens, devient une source émouvante d'inspiration merveilleuse, durable. Car l'histoire est morte, purement et simplement. Il ne reste que quelques textes et quelques tablettes, toute recherche supplémentaire superflue. Finalement, cette forme littéraire, qui est la répétition, le ressassement d'un drame, l'incertitude du sens que l'on peut donner à un sacrifice et même l'incertitude sur le sacrifice lui-même. Car même si ce professeur projette sur les autres jeunes l'expérience qu'il a vécue, même si une fois assuré de l'existence de la vie de son fils, il apprend ou il revit, puisqu'il ressasse sans arrêt, il revit cette expérience comme si elle était véritablement authentique, tout ça nous amène à nous poser plus de questions sur le plan évidemment de l'interprétation, j'oserais ici dire du mythe, du point de vue du littérateur, du point de vue littéraire, nous amène à nous poser plus de questions car il s'agit d'un niveau plus existentiel que philosophique et on a une sorte de balancement finalement entre la certitude d'un sacrifice et l'incertitude d'un sacrifice car le sacrifice n'existe que si cette mort n'a pas, ou si cette disparition ne peut pas être dotée d'un sens quel qu'il soit. Il y a donc recherche d'un sens transcendant, recherche d'une histoire humaine, recherche d'un nouveau dialogue entre les générations, et finalement, lorsque nous terminons la lecture de cette nouvelle, nous n'avons peut-être dans un premier temps d'autre choix, que de nous reporter au texte originel, pour essayer d'y trouver une réponse.
Bon, je voudrais d'abord expliquer pourquoi je suis ici, parce que moi je ne sais pas exactement. Et on m'a lancé une invitation en disant qu'il y a un séminaire sur le thème de le sacrifice d'Isaac. Et on m'a dit que je vais parler sur ce thème dans la littérature hébraïque. Parler sur ce thème, et je pense qu'on voilà, ça peut faire moi, parce que et dans le colloque de l'école juive il y a 2 ans, j'ai mentionné mon opposition et farouche à cette histoire, en disant que je pense que cette mythe qui est si importante dans notre vie est une mythe abominable, que je n'accepte pas, je le rejette, je l'accepte comme un fait, que j'accepte l'importance énorme de ce mythe dans notre vie, mais que je le rejette sur le plan personnel. Alors, à cause de cette remarque que je fais dans mon discours, dans les colloques qui étaient consacrés à la thème de la guerre en Israël, et à cause du fait que je suis écrivain et que je m'occupe de la littérature israélienne, alors cette invitation a été appelée à moi. Et puis je vous disais, je pensais que ce sera une petite cercle de quelques gens qui ont parlé au microphone très intime, alors je proposais de parler sur cette nouvelle et d'essayer de discuter au-delà d'un texte en aussi proposant mes sentiments personnels et tout à fait personnels. Alors, ce n'est pas le cas pareil, même qu'il y a beaucoup de gens qui quittent tout le temps les salles et peut-être on va arriver à une cercle très intime, mais je ne sais pas si ce sera dans les 10 minutes qui vont venir maintenant, alors je ne donne pas une conférence, mais je vais simplement essayer d'abord d'aborder ou d'exprimer mon attitude personnelle à ce concept sémite, qui à mon avis est important. Et qui peut expliquer énormément de choses dans la vie spirituelle de vie. Et à mon avis, c'est très important que vous avez fait un séminaire sur ça, et il faut consacrer bien plus que 3 jours pour élaborer au fond cette vie. Et en même temps, d'essayer d'exprimer ce qu'il y a dans la littérature israélienne, quelle attitude israélienne a l'attitude dans la littérature israélienne envers ce mythe qui est très utilisé. Et cette nouvelle, je veux dire, balance, c'est balance entre ce mythe, en acceptant ce mythe et en refusant à ce mythe, en même temps. Et ça, c'est tout à fait. C'est-à-dire l'attitude générale de la littérature israélienne. On accepte ce mythe ou on le rejette en même temps. Je vais d'abord dire ce que je pense de ce mythe. Moi, je ne crois pas au Dieu. Je dis ça d'une façon très nette, très claire et très honnête. C'est-à-dire, il n'y a pas une présence objective de Dieu dans le monde. Et surtout pas, à mon avis, un Dieu juif. Il y a même un Dieu, il n'a parlé à personne. Ni à Abraham, ni à Mohammed, ni à Moïse, ni à Jésus-Christ. Il n'a parlé à personne. Et personne ne peut pas amener les évidences sur que quelqu'un a parlé. Si je vais tuer maintenant mon idou, je vais dire que Dieu m'a dit ça, je serai appelé immédiatement la police. Parce que vous ne le croyez pas. Vous disiez, c'est pas vrai. Sûrement. Et s'il était ici à Abraham, avec Isaac, tu vois Isaac et mêle Isaac, alors vous allez dire, bon, c'est Dieu que je lui avais dit. Alors pour ça, je ne sais pas. Alors toute l'histoire de la sacrifice d'Isaac se déroule entre deux personnes seulement. Il y a seulement deux là-bas, Abraham et Isaac, il n'y a pas Dieu. On parle de quelque chose qui est Dieu. Personne ne sait rien. Il y a Dieu et à mon avis, il n'y a pas. Alors, pourquoi Abraham fait ça? Alors moi, je dois expliquer cette histoire à partir du fait qu'il y a seulement deux personnes là-bas. Seulement, Abraham a quitté sa famille, sa patrie. Il a dit, moi j'étais élu par quelqu'un pour créer un autre peuple. Il a élu lui-même, parce que la thèse, l'hypothèse, n'oubliez pas, et toujours il n'y a pas un Dieu. C'est lui qui a dit, moi je suis élu, moi je vais créer un autre peuple. De son pays, d'être allé à l'étranger, à un pays tout à fait pas connu. Et Israël a dit, ce sera mon pays, ici je vais établir et tout à fait mon peuple. Mais il n'est pas sûr, comment il peut être sûr, il n'y a pas un Dieu qui va lui donner cette assurance qui est vraiment élu. Il fait ses choix par lui-même et toutes les forces doivent venir de son intérieur. Il n'y a pas de Dieu, il y a un silence. Et il a peur que son fils va dire tout cela, c'était bien. Pourquoi tu as quitté ta famille, pourquoi tu as quitté ton patrie, pourquoi tu as fait tout cela. Il a peur. Alors, il devait prouver à son fils qu'il est sérieux. Qu'il vraiment, il y a quelque chose derrière lui. Alors, il les met dans cette épreuve énorme, en sachant très bien qu'il va la libérer. Il va la tuer. Il fait cette sorte des exercices, si vous voulez, en menaçant Isaac.
Regarde, je suis sérieux, je vais te tuer. Il y a quelqu'un, quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un derrière moi. Je vais essayer de te tuer. Et tu fais très bien, je t'aime énormément. Et si je fais cela, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, que quelqu'un m'a dit. Ce n'est pas une vide qui est derrière moi, mais il y a quelqu'un. En imposant ça sur Isaac, il va le tenir. Et il veut que Isaac va le continuer. Que ça va continuer, parce que sinon tout sera pris, tout va tomber en rien. Si Isaac ne va pas continuer, c'est qu'Abraham a commencé. Et ça, c'est la preuve la plus absolue pour Isaac. Je pense que c'est mis, parce que fille, c'est la seule explication pour moi valable. Parce que s'il y a Dieu, et Dieu a dit, et Dieu était sérieux en disant à Abraham, va tuer ton fils. Et Abraham a accepté l'appel de Dieu sans justice. Comme je dis, ça c'est l'histoire la plus abominable. Et ça c'est la racine de tout le mal dans le monde. Parce que pour l'autre, c'est Staline qui a dit, fais quelque chose d'injustice parce que je suis ton chef. Les autres, et ici, il y avait tant de gens qui ont fait des choses abominables au nom de Dieu. Et nous savons très bien, au cours de l'histoire, combien de erreurs et d'atrocités ont été faites parce que quelqu'un a dit, Dieu m'a dit. Et il savait très bien que c'était une atrocité. Il a dit, c'est une atrocité, mais parce que Dieu m'a dit, alors je peux le faire. Non, parce qu'il a utilisé. Il a dit, au nom de Dieu, oui, je crois en Dieu. Mais Dieu a dit ça, ou quelqu'un a dit au nom de Dieu, fais ça. Alors j'accepte l'autorité sans question, même si cette autorité est totalement amorale. Si il y a Dieu ici, alors parce que l'histoire est vraiment à Abraham, vous pouvez être accusé de la façon la plus terrible. Mais parce que je crois en Dieu, alors je sauve Abraham de cette situation terrible. En disant, il a fait ça comme, seulement comme une épreuve, en sachant très bien que finalement, il va le
Quand vous permettez, après manifester, vous dites que vous croyez en Dieu et vous récusez les paroles de la Torah. Ça, c'est inadmissible quand vous écoute, monsieur.
Les malheureux ne savaient pas qu'ils doivent quitter avant. Dans toute l'histoire d'abord de le sacrifice d'Isaac, la continuation était la crucifixion de Jésus-Christ. Ces deux histoires sont très bien liées. Ils sont liés par le fait même que les chrétiens pouvaient, la crucifixion a été faite et par injustice, et on doit payer pour cela. Et vous allez payer. Ça, c'était une sorte d'un autre mythe qui a été basé sur le terme moral, parce qu'on a fait quelque chose qu'on devait pas faire et on a vraiment exécuté la crucifixion. Dans toute l'histoire juive, il y a cette hésitation entre ces deux pôles à ce qui concerne les mythes. Dans tous les problèmes de la sanctification de Dieu, de qui touche au chêne, etc. Quand il y a une raison morale de tuer le Fils, on peut le faire. Quand quelqu'un impose sur vous quelque chose que vous n'acceptez pas et vous dites, moi je ne vais pas l'accepter, c'est pas moral, moi je vais me sacrifier et même sacrifier mes enfants pour cela, ça c'était toujours dans la voie morale, même si la source d'inspiration était le mythe d'Isaac. Moi je ne pense pas que les Juifs dans les temps des crusades, quand ils ont tué leurs enfants,
même que la source d'inspiration était très bien la source d'inspiration qui venait de l'histoire d'Isaac, ce n'était pas la même chose qu'on va voir, parce que là-bas, il y avait raison. Il y avait quelqu'un qui voulait imposer sur eux de ne pas être juif, de changer leur identité. Il disait, ça n'est pas moral, moi je ne vais pas changer mon identité. Et cela, je suis prêt à mourir, je ne vais pas changer mon identité. Et ça, c'était tout à fait moral sur le plan humain. Et ce n'est pas seulement le cas dans le monde, dans l'histoire mondiale, qu'il y avait des peuples qui se mouaient pour ne pas changer de l'identité. Lui, si vous voulez le comprendre. Mais s'il y avait cette notion de faire quelque chose pour sans raison, de vivre sans raison, parce qu'il n'y a pas aucune raison dans le mythe original. Il n'y a pas aucune raison pour cela. Il ne dit pas parce que ton fils était méchant, parce que tu es fait grave, parce que t'as. Rien, seulement l'ordre est donné, parce que je suis Dieu. Regardez bien, vivez bien, le texte est très cruel, hein, est très, et ne fait pas d'allusion, et ne couvre pas, et n'essaye pas de couvrir avec des arguments. Non, il est tout à fait net et honnête. Ce qui concerne Israël, toujours, il n'y avait pas le problème de la, sacrifice des enfants pour quelque chose qu'on ne sait pas pourquoi, mais on savait très bien pourquoi. Pour garder l'indépendance, pour garder votre identité, pour garder tout cela. Et les pères étaient les premiers de se sacrifier. Ce n'est pas question de sacrifier quelqu'un d'autre. Mais les pères étaient prêt à aller eux-mêmes, et s'il ne peut pas aller, alors les autres générations. Quand je vais dire, poussez-moi cette nouvelle, je ne peux pas interpréter, mais mon nouvelle. Mais quand il y avait quelqu'un critique qui a dit, parce que cette nouvelle a été écrite par cette notion d'un père agressif comme son fils, parce qu'il voit que son fils devait parler comme lui. Pas exactement que son fils est devenu, c'est pas américain, qui ne croit pas que vraiment on doit lutter comme ça et qu'il a des soupçons à ce qui concerne le but national. Est-ce que vraiment c'est un but national très précis ou vous voulez quelque chose d'autre? Vous voulez des objectifs religieux? Vous voulez me mêler dans un quelque chose que je ne sais pas? Alors, cette histoire a été écrite avec en accusant le Père, que le Père fait la mort de son fils. Et la façon dont il fait l'obliger de rester avec lui en disant, fais attention, tu n'as pas le choix, tu dois rester avec moi, et c'est la seule voie que tu dois aller. Dis non, on va te dire. Il y avait, évidemment, une critique qui a dit que quand vous allez lire cette histoire, quand vous allez lire cette histoire, l'année prochaine, on va se passer. Alors, il y a ici le mythe de la crucifixion de Jésus-Christ, parce qu'il y a plus, et ça a été écrit sans conscience, c'est pour ça que je savais ça, mais un critique a bien prouvé à moi que derrière tout le mythe, les officiels des sacrifices d'Isaac, il y a le mythe de la crucifixion de Jésus-Christ. Oui, j'accuse. Comme parce que ça, c'était l'accusation, c'est ça, venait ce mythe de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous voulons tuer le Fils parce que le Fils veut faire quelque chose d'autre. Et ça, c'était la crucifixion. Parce que le fils n'acceptait pas les Torahs de son père. Il n'acceptait pas ce que le père a dit. Il voulait faire quelque chose d'autre. Alors, on va te tuer immédiatement. Et on a le tué. Je lance ici seulement quelques idées à ce qui concerne cette histoire qui, à mon avis, on va bien plonger là-dedans. On voit toutes les références énormes, c'est un carrefour dans lequel il y a tant de choses qui se passent.
Il a vraiment bien joué. Il a bien joué. Non, pas encore.
Je voudrais remercier M. Signac et remercier les soir pour leur intervention. Étant donné que nous avons dit au début de séance qu'il n'y aurait pas de questions, il est évident que le président de séance doit s'interdire de poser des questions et d'intervenir dans un débat, car j'aurai un certain nombre de questions qu'il m'a posées, mais je pense qu'il faut les réserver pour le débat de ce soir. Je voudrais simplement...
Sera là, je dis.
Non,
c'est pas
le parti. Bien. Et alors, je pense que Joshua essaiera d'être présent parmi nous, car il aura à répondre à un certain nombre de questions.
Oh oui, alors.
Mais simplement, je lui dis que, là, un point sur lequel je suis d'accord avec lui, peut-être le seul, c'est qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de démonstration rationnelle, par là qu'il a commencé, de l'existence de Dieu. Parce que pour un croyant, il est évident que le domaine de la certitude de la foi est supérieur à celui de l'évidence rationnelle. Par conséquent, effectivement, pour un croyant, l'existence de Dieu ne se discute pas, enfin, pas plus que pour lui. Et puisqu'il a fait une profession de foi, ou plutôt une profession de non-foi, eh bien, effectivement, il y aura lieu de réfléchir à cet ensemble de thèmes, et à, d'une part en analysant la nouvelle, tout cas, qui va être suivie, mais aussi... peut-être en analysant d'autres thèmes de la littérature israélienne contemporaine, puisque c'est le thème qui avait primitivement été choisi pour son intervention, pour sa communication. Enseignement et sa recherche, une magnifique poésie qu'il a intitulée Reshut Bliketusha Vekadish, prière à intercaler au moment de la récitation de la Kedusha et au moment de la récitation du Kaddish. Et Mirsky pose admirablement le problème du croyant contemporain face à l'Holocauste, à la culture d'Isaac et à l'Holocauste contemporain. Je n'ignore pas que ce terme est écrit. Et nombreux sont les rescapés des camps qui récusent ce terme, et je respecte leur sensibilité, leur indignation. Cependant, comme le rappelait jeudi dernier au cours de la journée d'études consacrée à l'antisémitisme et au nazisme organisée par la section d'études hébraïques de l'UNALCO, le président de cette journée, Léon Poliakov, le terme holocauste fait maintenant partie intégrante de notre vision du monde et désigne, qu'on le veuille ou non, le génocide perpétré par des nazis. Pour les croyants, ce terme est remarquablement choisi, et je n'en voudrais pour preuve, avec votre accord, qu'une brève strophe, la strophe 3 du poème liturgique de Mirsky, qui met en scène à Auschwitz l'assemblée des fidèles qui interpellent leur maître sur le sens de leur commun martyr. Hatru Yehudé Ayuma Hatira Beozna Mubalev, Vekadru Latvari Mechila. לתוך חדר משכן הכאב, וכמו בעוד הרגע ישלוף נשמתו מגופו, כן הרב שולף כפיתור מפי ושת, העוקר כל דיבור מדבריו, אמר הבית דין, לא עת דמה, ולא הנחות ולא בך, נוחז באומנות כביכול, ונמחה הדמעות מן הלחם. וחבלנו בחבלי משיח, הנה בא כל דודי הנרסת, בני איש במוזניים לעלות, ועומד שם למטה בקר, נקפוץ על הקר שמעל, נרד נעלינו מתהום, משפו מושכי המשיח במצווה של קדוש והיום, ממרחק נשמע הד צעדיו, נקדמנו בברוך הבא, הן מלאך המוות כלו, יתגדל ויתקדש שמי הבא. Les Juifs qui constituaient cette assemblée tragique firent dans leur cœur réceptacle de toute la douleur du monde une place, ou plutôt un vide, afin d'y laisser pénétrer les propos du Maître. Dans un effort surhumain, semblable à celui du mourant qui restitue son âme dans la souffrance, comme s'il tentait de rompre les derniers liens qui le retenaient si fortement, arrachant littéralement les mots de sa gorge, le président du tribunal terrestre trancha. Ce n'est guère le moment des pleurs, des gémissements ou des sanglots. Inspirons-nous de la foi sans faille dans le Tout-Puissant, effaçons donc les larmes de notre visage. Puisque nous subissons les affres du temps messianique, puisque l'écho de la voix du bien-aimé tant attendu se fait déjà entendre, hommes, mes semblables, montons à l'assaut et hissons-nous sur le plateau de la balance alors que notre Messie attend sur l'autre plateau au fond de l'abîme. Gravissons, appuyons du poids de tout notre être, descendons donc puisque c'est ainsi que nous le ferons remonter du gouffre. Tirons-le par les liens qui nous rattachent à lui sur l'ordre du très saint et du si redoutable. De très loin, on entend l'écho de ses pas. Accueillons-le, mes frères, par le traditionnel Baruch Haba. Voici donc l'ange de la mort réduit au néant, Yikadal Veyikadash Shemer Haba, que soit magnifié et sanctifié du Très-Haut le glorieux nom. Je donne la parole à M. Philippe Soler, écrivain, qui nous parlera du message poétique du sacrifice d'Isaac. Je ne sais pas du tout si Dieu existe, mais ce que je sais, c'est qu'il fonctionne, si j'ose dire. Il fonctionne pour ceux qui y croient, comme je crois pour ceux qui n'y croient pas. Et c'est de ce fonctionnement, puisque on attendait de parler à propos d'un passage de la Genèse, chapitre 22, que je vais vous faire en fin de conférence, mais quelques remarques qui sont dues non pas à mon savoir, mais à mon intuition, puisqu'il me manque l'essentiel, c'est-à-dire la connaissance de l'écran. Je mettrai quant à moi d'abord en doute que le choix du terme holocauste pour le drame épouvantable dû aux nazis soit un terme bien choisi. Je mets cela en cause pour la raison suivante, qui est le simple respect des mots. Ce terme est employé par la Bible précisément dans le chapitre 22, s'agissant de l'intervention de Dieu entre Abraham et Isaac, et ce terme qui vient de, je veux dire, je crois, vous allez me dire si je me trompe, vient d'une racine qui veut dire relativement. Je peux vous faire l'analyse en grec, mais
à travers la traduction grecque, mais si bien en faire revenir.
Bon. Si j'ai bien lu un petit peu la Bible, lorsqu'il est question de l'Holocauste, c'est qu'il est question de sacrifice, notamment fait par Noé à Dieu. Il s'agit de brûler des bêtes pures qui vont en quelque sorte flatter la narine de Dieu et lui montrer, attester en quelque sorte. Il se passe bien quelque chose de conforme à sa volonté parmi les hommes. Et ce terme est employé donc dans une intention extrêmement précise de lien entre un Dieu dont on ne sait d'ailleurs jamais s'il est là tout le temps, s'il observe tout le temps, s'il voit tout le temps, s'il entend tout le temps. La Bible, justement, fait fonctionner Dieu d'une façon extrêmement discontinue, et c'est ça l'intérêt, à mon avis, des textes et sa portée poétique. On ne sait pas si Dieu voit tout et pour tout, entend tout, ce qui serait peut-être une pensée folle. Dieu intervient, et de temps en temps, la Bible précise qu'il se souvient, il intervient, il entend le cri
d'un enfant, notamment celui d'Ishmaël au désert, lorsque Agar pleure. Ce terme de l'Holocauste est donc un terme qui signifie la tentative d'introduire entre l'absolu, l'inconnu, l'indicible, le Dieu caché, et qui ne se révèle que de façon paradoxale, déroutante, toujours scandaleuse, je vais y venir, en un sens. Ce terme donc établit un lien entre le sujet et ce qui le dépasse. Donc je trouve, pour le moins, impropre qu'on applique ce terme à un crime crapuleux, froidement commis, d'une façon scientifique, positiviste, rationnelle, contre un peuple et un peuple en tant qu'il porte précisément ce texte, et pas n'importe lequel. Et peut-être que c'est justement en tant qu'il est porteur de ce texte que ce crime a été tenté contre lui. C'est un crime, en quelque sorte, je dirais, génétique. Or, je ne sais pas si Dieu existe, mais ce que je sais, c'est qu'il fonctionne. Et dans la Bible, justement, ce Dieu, il s'occupe beaucoup de génétique. Et si vous me permettez ce jeu de mots, je dirais qu'il faudrait l'écrire génétique G-N-E-T-H-I-Q-E, à savoir que c'est une génétique qui ne va pas sans éthique, mais qui introduit aussi une sacrée gêne dans l'éthique. C'est un Dieu de l'époque des générations, d'histoire, qui tout de même s'occupe d'une façon très particulière, et quand vous disiez, monsieur, de pourquoi tout cela a-t-il une raison, je ne sais pas si ça a une raison. Ce que je sais, c'est que ça fonctionne, et que ça fonctionne précisément dans ces histoires d'engendrement et de reproduction de l'espèce, et que ce texte-là, et lui seul, nous en dit plus long sur cette affaire, et que sans lui, sans ce texte, peut-être que nous croirions que dans cette affaire de reproduction de l'espèce, il s'agit de quelque chose, après tout, naturel. Mais si nous croyons en définitive qu'il s'agit de quelque chose d'entièrement naturel, nous arriverions peut-être à concevoir positivement, positivistement, rationnellement et génétiquement, sans H, une sorte de solution finale de la reproduction de l'espèce. Et par exemple, on ne voit pas un génocide, des génocides, à commencer principalement et d'une façon tout à fait différente des autres, par le génocide de ce peuple qui porte ce texte, et pas n'importe lequel, puisque ce texte parle précisément de cette gêne dans l'éthique, dans la génétique. Ce Dieu s'occupe de ça. Il s'occupe tellement de ça que pour comprendre, à mon avis, ce qui se passe dans cette affaire Isaac, entre père et fils, bien sûr, c'est que cette question de père et fils. Et que ça va pas de soi. Il y a quelqu'un qui est venu quand même en dire un peu long là-dessus, c'est la fin du 19e siècle, qui a poursuivi avec bien du souci son travail, c'est un certain Freud. Il a comme ça émis des hypothèses très sérieuses, mais il le faisait depuis la tragédie grecque. Lui aussi, il avait quelques problèmes avec ce texte. Il s'est mis à écrire sur Moïse, et puis il est mort, mais nulle part il ne nous parle d'Abraham. Peut-être qu'il serait-il arrivé, il aurait fallu vivre 120 ans, 150, on n'est pas plus large. En tout cas, Freud était sur la voie, si je peux dire, c'est quelque chose qui préoccupait cette histoire du meurtre du père. Il est peut-être de la forme de quelque chose qui se passe dans un meurtre primordial, du père au fils, et nous savons très bien que ça se faisait, hein, le premier né, à la divinité, mais précisément ce texte-là, contrairement à toutes les autres mythologies, c'est pour ça que ça n'est pas déjà un mythe. Je conteste qu'il s'agisse d'un mythe pour ce qui est de la Bible. C'est quelque chose qui a tendance à nous raconter plutôt comment le mythe est suspendu et comment autre chose intervient dans l'histoire, et précisément dans cette histoire très importante de la façon dont les générations s'arrangent les unes avec les autres, pour les pères arrivent à supporter les fils ou pas.
Donc, père et fils, eh bien, Isaac, on va parler de lui, n'est-ce pas? Il s'agit de Rick.